Je suis Marie-Pierre Deschaines. Avec le podcast Souveraine, je t'invite, femme courageuse en quête de liberté, de simplicité et d'harmonie, vers la reprise de ton pouvoir sexuel et menstruel. Envisageons ensemble une société nourrie par les connexions humaines qui accueille la beauté de la simplicité en harmonie avec notre nature cyclée. Une société qui prend action pour respecter tous les êtres vivants et la planète. Faisons partie de la solution. Soyons des alliés au changement vers la circulation du savoir, de la richesse et de l'abondance de façon équitable et engagée. Nous sommes souveraines. Notre pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Bienvenue dans notre communauté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, j'avais super hâte de vous partager ce premier contenu en lien avec le mois des fiertés. En fait, parce que le mois de juin est le mois des fiertés et j'ai préparé plein de contenus justement en lien avec tout ça au courant du mois qui s'en vient. Pour celles qui ne sauraient peut-être pas, je fais partie de la communauté LGBTQ+, en tant que femme bisexuelle. Et ça me rend vraiment fière de pouvoir partager tout ça avec vous. Aussi, avant que j'oublie, au début du podcast, donc en juin 2019, je pense, dans ce coin-là, j'ai fait une semaine thématique inclusive avec une entrevue en deux parties avec Marie Gagné. J'ai fait aussi un épisode sur la non-monogamie éthique et sur justement un épisode où je raconte mon expérience avec la bisexualité. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre au tout début du podcast dans les premiers épisodes et c'est très bien indiqué que c'est la semaine de l'inclusivité, donc vous irez voir ça. Comme je disais, juin, c'est le mois des fiertés, et là, j'ai mis fierté au pluriel, parce que c'est important de comprendre que il y a plusieurs groupes qui fêtent la fierté, dont les groupes trans, les groupes de personnes de couleur. Bref, je vous invite vraiment à vous informer et à lire sur ce sujet-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que c'est très, très important. Et c'est pour cette raison que j'avais le goût d'aborder ça dans l'épisode de cette semaine. Et donc, on a choisi le mois de juin, justement parce que ça commémore les émeutes qui ont eu lieu en 69 dans la ville de Stonewall. Vous avez peut-être entendu parler de ça aux États-Unis. Et des émeutes qui visaient justement des bars ou des endroits où les personnes en fait LGBTQ+, se rencontraient. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement des fiertés est un mouvement qui est né dans la rébellion, dans l'oppression justement, et que c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont décidé que c'était trop et qu'il fallait que les droits des personnes de cette communauté-là soient respectés. Et moi, je leur dis merci énormément pour ces personnes-là qui sont venues avant moi, qui ont fait un travail très, très, très important. Et merci pour tout ça. Aussi, j'ai vu dans une vidéo de Blair Armani, je pense que c'est son nom. Vous irez voir sur Instagram, dans une vidéo qui partageait justement que le mouvement de la fierté était porté par les femmes trans de couleur. Donc ça aussi, c'est vraiment très important de savoir ça, parce que souvent, dans le mouvement LGBTQ+, le T, qui signifie trans, est souvent mis de côté. Et je pense que c'est vraiment un devoir de remettre le T de l'avant et que les voix des personnes trans soient propagées, soient entendues, soient plus amplifiées. Aussi, j'ai trouvé une image sur Instagram que je trouvais très intéressante, que je veux vous partager ici. Évidemment, je vais vous lire ce qui est écrit puisque vous ne pouvez pas la voir. C'est vraiment très intéressant parce que souvent, la pride, la fierté, on pense que c'est des arcs-en-ciel, c'est des parades, c'est des défilés, tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment plus que ça. Et je vais vous donner aussi ici quelques exemples du post. Donc, c'est des célébrations, bien sûr. Être valide dans le garde-robe parce que, je vais en parler plus tard, mais c'est pas tout le monde qui a l'envie et ou l'option de faire un coming out. Donc, ça aussi, c'est très important de prendre ça en compte. Justement, d'avoir une communauté, de se sentir libre, de s'aimer encore plus soi-même que ce que les autres peuvent nous aimer, de survivre à plusieurs choses vraiment difficiles, donc de l'oppression, d'aimer les arcs-en-ciel aussi parce que c'est cool, d'être accepté et de se faire respecter en étant soi-même. D'avoir de l'euphorie de genre. Donc, quand on performe le genre dans lequel on construit notre identité, aussi, ça peut amener vraiment à un sentiment d'euphorie, protéger la jeunesse trans, se battre pour des droits. Bref, vous comprenez le portrait, mais c'est seulement pour vous dire que la pride et que la fierté, justement, ça inclut beaucoup de choses et pas seulement le mois de juin. Donc, c'est vraiment très important qu'on en parle à chaque mois, qu'on en parle tout le temps. Et évidemment, c'est une cause qui me tient à cœur parce que je fais partie de cette communauté-là. Mais c'est ça, c'est vraiment très important pour moi de m'impliquer. Et donc, voilà. On parlait de coming out tantôt et j'ai reçu une question sur Instagram qui me demandait c'est quoi la pertinence de faire un coming out à sa famille quand on est dans une relation normatif. Et là, j'imagine que la personne voulait dire dans une relation hétéro ou dans une relation monogame aussi, parce que ça aussi, ça peut faire partie du fait d'être queer. Donc, peu importe ce que la personne voulait dire. C'est une excellente question. En fait, ce que je répondrais, c'est que pour certaines personnes, comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas possible ou ce n'est pas une envie de faire un coming out à sa famille. Donc, c'est très important de se respecter dans ce choix-là et aussi que ce choix peut changer au fil du temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Je vais vous donner mon exemple parce que pour moi, c'est exactement ce que je vis présentement. J'ai toujours été en couple avec des hommes jusqu'à cette année. Puis, j'ai fait un coming out justement j'avais 23 ans. Donc, en 2014, dans ce coin-là. En 2014, à ma famille, c'était pas encore très clair pour moi. Puis ça, je vais en reparler aussi, mais si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode dont je vous ai parlé plus tôt. Donc c'est ça, c'était pas encore très clair pour moi, fait que j'ai fait comme un coming out gay, puis après ça, j'ai fait un coming out bisexuel. Bref, c'était encore très flou, puis je dirais que pour moi, c'était vraiment très important, surtout parce que même si j'étais dans une relation avec un homme, je souhaitais vraiment pouvoir être libre et parler librement de qui j'étais et pas avoir peur de me censurer, d'avoir peur de dire des choses qui ne seraient pas comprises ou qui pourraient laisser des indices. Je ne voulais pas vivre ça. Donc, pour moi, c'était vraiment très important de le faire. Et surtout parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, je m'impliquais beaucoup au niveau de la communauté LGBTQ+, il y a quelques années. Maintenant, bon, le bénévolat est plus difficile, surtout avec la pandémie. Mais bref, fait que, t'sais, pour moi, c'était vraiment important que ça soit clair. C'est un choix que j'ai fait. Mais sachez que tous les choix que vous pouvez faire sont très valides. Donc, il n'y a pas de stress à faire ça. Mais je pense que la pertinence se situe surtout au niveau de se sentir libre, au niveau de pouvoir être 100% soi-même. Par contre, je pense qu'il faut peser les pour et les contre. Et si vous pensez que le fait de faire un coming out à votre famille peut vous amener des risques, soit pour votre santé, pour votre sécurité, ou juste pour les liens que vous avez avec elle, je pense que c'est très correct de ne pas le faire aussi. Donc, j'espère que ça répond à la question. Aussi, comme je mentionnais plus tôt, l'orientation sexuelle, il faut se souvenir que c'est quelque chose qui est fluide dans le temps. Justement parce que, c'est ça. T'sais que c'est super fluide. Puis aussi, avant que j'oublie, je voulais vous partager un autre post justement sur Instagram qui disait que la Pride, ça s'adresse et on peut aussi fêter la Pride si on est fier et qu'on a fait un coming out, si on n'a pas fait de coming out, si on planifie de faire un coming out ou si on ne peut pas en faire. Donc la Pride s'adresse à toutes ces personnes-là et ces personnes-là méritent notre support en tout le temps. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait de coming out qu'on mérite moins de faire partie de cette communauté. Donc, c'est très important pour moi que ce soit clair. Donc, si c'est quelque chose que vous vivez, que vous vous sentez seul, sachez que je suis là, je vous soutiens, supporte, je vous accueille aussi dans la communauté. Et c'est ça. Sachez que faire un coming out, ça peut prendre du temps, puis il faut absolument suivre son rythme. Donc, comme j'avais commencé à aborder, l'orientation sexuelle est fluide et est sur un continuum qui est, qui varie beaucoup, qui change dans le temps, qui change avec notre perspective de la vie, avec nos expériences, avec qui on est, avec qui on devient. Puis tu sais, moi, ça m'a pris vraiment un long moment avant de bien comprendre justement mon orientation et de trouver des réponses à mes questionnements parce que, my God, que c'était pas clair. J'avais pas rencontré de personnes bisexuelles ou en fait, du moins qui s'affichaient comme telles. Donc, j'avais pas pu parler avec ces gens-là, j'avais pas pu avoir d'échange, je savais pas ça avait l'air de quoi dans la vie de façon concrète. C'est ça qui a été vraiment difficile pour moi, je pense, parce que quand on n'a pas de modèle à qui s'identifier, c'est vraiment difficile et c'est l'une des raisons pour laquelle je me fais un devoir d'en parler de façon très claire et très ouverte parce que je me dis si je peux être cette personne pour quelqu'un d'autre, ça sera déjà ça. Évidemment, j'ai pas la prétention d'être un modèle parfait, loin de là, mais je pense que si ça peut aider quelqu'un, quelqu'une à bien comprendre ce qu'elle vit ou à mieux comprendre, ça va me faire immensément chaud au cœur parce que je sais à quel point ça peut être difficile, laborieux comme processus et que ça nous fait vivre du stress constamment. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul encore une fois. J'ai reçu beaucoup de questions et avec mes amis, on se demande en fait les étiquettes, est-ce que ça vaut la peine? Par exemple, de s'identifier en tant que membre de la communauté, de choisir de ne pas porter d'étiquette. Pour certaines personnes, il y en a qui croient que c'est pas nécessaire et d'autres croient qu'elles ne devraient pas être là. Donc, moi, j'avais le goût de vous donner mon avis à ce niveau-là. En fait, je suis plutôt d'avis que les étiquettes sont un outil vraiment très intéressant qui aide à mieux exprimer notre expérience vécue à travers notre identité, justement, comme je viens de le mentionner, et à ressentir un sentiment d'appartenance. Et là, pour moi, ça a été définitivement une étape très importante quand j'ai mis une étiquette sur qui j'étais, mais sachez que c'est aussi très correct de faire le choix de ne pas porter d'étiquette ou même de dire que ça ne devrait pas exister. Par exemple, même si nos expériences se recoupent, ben, je trouve ça difficile de m'identifier aux femmes, en fait, au vécu d'une femme lesbienne versus une femme bisexuelle parce que j'ai pas eu un parcours semblable à une femme lesbienne qui aurait été en couple avec des femmes, par exemple. Puis pour moi, c'était vraiment important de prendre cette étiquette-là justement parce que je pouvais me retrouver avec des gens qui comprenaient ce que j'avais vécu, qui comprenaient, puis je trouvais ça plus facile aussi quand j'ai mis un nom sur ce que je vivais, parce que pour moi, ça faisait sens. Ça m'aidait à faire beaucoup plus de sens de mon expérience. Puis, dans mon cas, ça a été quelque chose de bénéfique aussi. Puis, c'est une étiquette que je porte fièrement. Mais sachez que c'est une réflexion, puis peut-être que ça va changer avec le temps, peut-être que il y a des prises de conscience qui vont me faire changer d'avis ou qui vont m'amener à avoir une réflexion différente, mais je dirais que pour l'instant, ça se passe à ce niveau-là. Puis aussi, c'est ça, je prône vraiment l'importance de se réapproprier nos identités multiples. Et là, j'en parle souvent sur le podcast, mais pour moi, l'une des choses les plus importantes quand on a plusieurs identités, c'est d'arriver à faire sens justement de cette expérience-là en tant que femme, en tant que, je sais pas, en tant que femme noire par exemple. Moi, je suis une femme bègue aussi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon une identité. Je suis une femme francophone. Bref, pour moi, c'est vraiment très important d'avoir cette réflexion-là face à mes identités. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important de me réapproprier ces identités-là parce que je ne les performe pas et je ne les vis pas comme tous les membres de la communauté, parce qu'évidemment, chaque expérience est différente. Donc voilà, c'était ma réflexion par rapport à tout ça. Et je voulais terminer cet épisode justement en vous offrant des façons de soutenir la communauté LGBTQ+, parce que souvent, c'est bien beau de comprendre les enjeux, mais on ne sait pas comment prendre action. Donc, voici quelques informations en vrac pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Ça va me faire immensément plaisir de vous indiquer quels organismes peuvent être pertinents dans votre région, quelles ressources aussi sont là pour vous. Donc, ne vous gênez jamais, jamais, jamais. Évidemment, je connais beaucoup plus les ressources au Québec et à travers le Canada francophone. Donc, si vous êtes en France, si vous êtes en Europe, je peux faire des recherches, mais sachez que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour moi. Voilà quelques façons en vrac de soutenir la communauté LGBTQ+. Première chose essentielle, et ça, c'est dans n'importe quoi. Si on veut être un bon allié, c'est très important de ne pas mettre de ne pas mettre l'attention sur soi quand on ne fait pas partie de la communauté. Donc, d'être en retrait, de faire le travail qu'il faut, mais que notre voix ne... Comment je peux dire? Notre voix ne cache pas celle des autres, ne n'abaisse pas celle des autres. Donc, très important de garder ça en tête. Aussi, un conseil classique, s'éduquer, s'informer et... poser des questions, c'est vraiment très, très, très important. Et n'ayez pas peur d'aller vers les autres, de vous ouvrir et d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. C'est vraiment la base, mais souvent, on oublie. Donc, s'informer, s'éduquer, comme vous le faites présentement, c'est un excellent début. Aussi, soutenir les initiatives et les organismes qui œuvrent auprès de la communauté LGBTQ+. Donc, comme je vous disais, si vous souhaitez avoir plus d'infos à ce sujet-là, faites-moi signe. Aussi, quelque chose qui est très, très, très important. Et je terminerai justement là-dessus avec ce dernier conseil. S'assurer, et là c'est très important, s'assurer de ne pas invalider ou d'invisibiliser nos expériences. Et là, je vous donne un exemple très clair, très simple. Par exemple, de prendre pour acquis que je suis une femme hétérosexuelle si je suis en couple avec un homme, ce qui m'arrive constamment et qui invisibilise mon expérience, ce qui est vraiment difficile pour moi. Ou, par exemple, de juger que je ne suis pas assez queer, assez bi pour faire partie de la communauté. Et ça, j'aborderai pas nécessairement ce thème-là parce que j'en ai parlé dans mon autre épisode. Quelque chose qui est quand même difficile, c'est l'oppression au sein même de la communauté. Souvent, c'est difficile dans le regard des femmes lesbiennes. Et là, évidemment, je n'inclus pas toutes les femmes lesbiennes, mais c'est souvent difficile en tant que femme bisexuelle, surtout quand tu es en couple avec un homme, de trouver ta place dans la communauté. Et c'est pour ça justement que c'était très important pour moi de retrouver des femmes avec qui je pouvais partager ce vécu-là. Et si c'est votre cas, si vous vous sentez seule, faites-moi signe, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment, vraiment ça, qu'on jase ensemble et qu'on tisse des liens. Mais bon, voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. Souvent, on sent un jugement, on sent un poids sur nous comme quoi qu'on fait pas partie de la communauté, qu'on n'est pas assez queer, qu'on n'est pas assez gay, je sais pas quoi. Mais sachez que nos expériences sont très valides. Et que peu importe si vous êtes en couple ou pas, si vous avez déjà eu des relations sexuelles ou des relations amoureuses avec quelqu'un du même sexe que vous, si vous n'en avez pas eu, peu importe tout ça, ça n'enlève absolument rien à votre orientation sexuelle. Ce n'est vraiment pas du tout lié à tout ça. Et si vous vous sentez comme ça, si vous sentez que vous appartenez à la communauté, c'est parce que vous êtes déjà là. Et sachez que votre expérience est valide et aussi très importante. Donc, je terminerai là-dessus. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Je vous invite encore une fois à vous informer sur tous les enjeux en lien avec les fiertés. Je vais, comme j'ai mentionné aussi, partager du contenu sur les différentes plateformes au courant du mois. Si vous avez des questions, faites-moi signe. Ça va me faire immensément plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à partager l'épisode aux personnes de votre entourage pour faire grandir notre belle communauté et pour que le message se rende aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt!